Dans notre piston phone aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Pascal Casanova pour la sortie de son livre « On m'avait dit que c'était impossible ». Pascal Casanova répond à toutes les questions de Yolande Sanchez pour Up Radio, bien sûr.
Bonjour Pascal Casanova, comment ça va?
Très bien, merci. Avec le beau temps, ça change un peu.
Bah oui. Alors, vous êtes l'une des sportives les plus médaillées dans votre discipline, le ski. Si on vous avait dit petite que vous alliez que vous alliez poser vos pieds sur 97 podiums, vous auriez dit quoi?
Je pense que je me serais retournée pour voir à qui on parle. Non, parce qu'en fait, alors oui, je skie depuis que j'ai 4 ans, donc c'est sûr que je suis une passionnée de ski. Et mon rêve quand j'étais petite, c'était de faire de la compétition, c'était d'aller vite, etc. Et puis de bien skier, de progresser techniquement, etc. Mais j'avais très bien compris qu'à l'époque, tout le monde me disait que du fait que je n'y voyais pas bien, je ne pouvais pas voir donc les piquets de slalom, ça je l'ai vite compris, et que donc je ne pourrais pas faire de compétition. J'ai grandi donc jusque vers 20 ans en pensant effectivement que c'était impossible. J'ai essayé, avec les résultats, en fonçant dans les piquets ou en les évitant vraiment à la dernière microseconde, en me retrouvant des fois dans le ravin parce que voilà. Donc j'ai essayé, mais sans guide, c'était absolument, c'était pas faisable. Et par hasard, disons que j'étais une très bonne skieuse en loisir. Et par hasard, en 1994, j'ai entendu parler des Jeux paralympiques de Lillehammer. C'est à cette occasion-là que j'ai vu qu'on pouvait skier en étant malvoyant, donc précédé d'un guide. Je n'ai plus qu'une idée en tête, c'était de faire pareil. Donc j'ai cherché des informations pour rejoindre la Fédération Française Handisport, je les ai appelés, et du coup je les ai persuadés de me laisser ma chance au moins pour un essai. Ce qu'on a fait dans les Pyrénées, puisque j'étais sur Toulouse, ce qu'on a fait dans les Pyrénées la fin de la saison 93-94. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en équipe de France en octobre 94 à Tignes, on va dire pour une saison probatoire, qui s'est vite transformée en saison pour préparer les championnats du monde 2 ans plus tard.
Alors, dans le livre, parce qu'on vous appelle quand même pour parler de votre vie, certes, mais parce que vous avez écrit un livre.
Exactement.
Et en fait, ce livre, donc, qui s'appelle « On m'avait dit que c'était impossible », ce livre débute par, non pas par tous ces podiums, etc. qui font quand même partie intégrante de votre vie, on va en reparler, mais commence par votre naissance.
Alors, en fait, si on remonte là, et c'est vrai que c'est de là que tout est parti, classiquement, hein. Je suis née en 1973 et je suis née malvoyante, en étant malvoyante, en y voyant à peu près rien. Enfin, je distinguais le jour, l'ombre, les lumières. Et à ce moment-là, j'ai suivi des interventions chirurgicales assez rapidement pour essayer d'améliorer ça, ce qui a un petit peu aidé les choses, mais je restais quand même très malvoyante, c'est-à-dire que je ne voyais pas ce qui se passait à plus d'un mètre autour de moi, sans voir de toute façon les détails, etc. Donc tout a commencé comme ça, tout a commencé aussi avec une gamine qui est née avec une formidable envie de vivre, avec une pêche, d'enfer. J'ai envie de faire comme tous les petits copains. Donc ce qui a amené mes parents à accepter de tenter une scolarité en milieu ordinaire, c'est-à-dire pas en classe pour déficients visuels, ce qui ne se faisait pas à l'époque. On a été une petite poignée en France à tenter l'expérience, donc j'ai fait partie de cela. On a dû prouver par A plus B que c'était possible. On a essuyé les plâtres, ça n'a pas été simple, ça a été un combat de plusieurs années. Et puis ça s'est terminé, avec l'entrée à l'université, ça s'est pas tout à fait terminé là, mais le plus dur était fait. Et après mes années post-bac, ça a été, entre guillemets, beaucoup plus simple, puisque l'anonymat de la fac aide beaucoup dans ces cas-là. Et puis moi, j'avais trouvé mon mode de fonctionnement, à part le fait que j'étais en prépa-lettres, donc là par contre c'est tout sauf simple et c'est plutôt fatigant, plutôt très difficile déjà pour quelqu'un de valide, alors pour quelqu'un qui voit à peine c'est encore plus dur. Mais bon, je m'en suis sortie, j'ai fait mes 2 années, je me suis régalée, j'ai appris énormément de choses vraiment très intéressantes, surtout au niveau de, la construction des schémas de pensée, la réflexion, etc. Et puis à partir de là, ben, j'ai continué mes études à Sciences Po, droit, gestion d'entreprise. Et depuis quelques années, depuis 99, je suis embauchée à EDF, où j'ai là encore fait un parcours assez varié, puisque j'ai eu des métiers très différents.
Et vous avez été sportive de grand niveau.
Et j'ai été sportive de haut niveau. Je suis rentrée en équipe de France à peu près au moment où j'étais en Sciences Po. Donc, bon, après la prépa, à Sciences Po, c'était un peu plus cool, on va dire. Donc je me suis permis, comme j'avais appris à m'organiser en prépa, je me suis permis d'arriver à tenter les deux. Et effectivement, bon, bah, ça demande beaucoup, beaucoup d'anticipation, d'organisation, et puis surtout beaucoup de volonté pour tenir le cap dans les deux côtés.
Bah, un peu comme pour le ski, il faut de l'anticipation, il faut entendre ce que la personne vous dit. Et puis anticiper aussi certaines choses.
Oui, parce qu'en fait, on repère la piste à deux, on fait la reconnaissance comme, j'allais dire, comme des valides, hein, sauf que nous, le guide doit calculer les trajectoires pour deux. Donc, en fait, je sais ce qui va m'arriver, au même titre qu'un valide connaît sa piste. La seule différence, c'est que moi, j'obéis, on va dire, aux ordres du guide. Le timing, c'est à lui de trouver le moment, enfin, j'allais dire, le quart de seconde vraiment exact auquel il doit donner l'ordre ou donner l'information. Donc, on anticipe dans le sens où on a fait la reconnaissance, mais après, c'est un peu comme la patrouille de France qui suit son leader, c'est-à-dire elle connaît sa chorégraphie, mais en même temps, elle ne doit pas anticiper sur l'ordre du leader, sinon c'est le crash, quoi. Donc là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si j'anticipe ou si je fais trop tard, soit on sort de piste, soit on rate une porte. Enfin, les deux sont disqualifiés de toute façon.
Alors, ce livre, pour vous, c'est une autobiographie qui est sortie d'ailleurs chez les éditions Loubatière. Pour vous, le but premier de ce livre, c'est de montrer que la vie, elle est comme ce que l'on a envie qu'elle soit.
Alors, le but premier pour moi, c'était déjà de faire partager mon expérience pour des jeunes ou des parents d'enfants handicapés, c'est-à-dire leur montrer que, contrairement à ce qu'on peut entendre autour de nous, les gens jugent très très vite. En fait, souvent le handicap, la personne voit une personne handicapée avant tout pour ce qu'elle ne peut pas faire. On se cristallise, on se focalise sur le handicap et pas sur les potentialités de la personne. Et moi, c'était un petit peu pour démontrer par A plus B que c'est pas forcément comme ça qu'il faut envisager les choses. Il faut envisager la personne en tant qu'elle-même, en tant qu'être humain, avec ses qualités, ses défauts, ses potentiels, ses limites. Et le handicap vient effectivement gonfler, on va dire, les limites. Mais si on se focalise sur les limites, on ne voit plus que ça. Et à ce moment-là, on ne fait plus rien. Alors qu'il y a tout le reste qui est possible. D'une part, c'est montrer que déjà, il faut avoir envie de se bouger un peu. Et même si on est handicapé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vie intéressante. Ça veut dire surtout qu'on doit décider soi-même de sa vie et pas écouter les autres. Alors, on peut les écouter pour prendre des conseils, mais la décision finale nous appartient. Après, j'allais dire, l'entourage, s'il est intelligent, au lieu de vous poser des limites, vous aide à dépasser ces limites. Peut vous mettre en garde, mais peut très bien vous dire, ok, bon, mais ça paraît complètement absurde, irréaliste, fou, tout ce qu'on veut. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, on va essayer ensemble. Ou alors, je vais t'aider en te donnant des billes pour que toi, après, tu puisses y arriver. Voilà, ça me paraît être le comportement, on va dire, intéressant pour tout le monde, et puis qui fait un peu évoluer les choses, quoi. Donc voilà, c'était d'abord ce premier but. Ensuite, c'était de montrer que non, tout n'est pas impossible, que c'est sûr, si on n'essaie rien, tout est impossible. Ça c'est vite vu. Moi, j'avais juste envie de vivre la vie dont je rêvais, enfin une vie que je jugeais intéressante. Alors voilà, dans ce cas-là, quand on est handicapé, on a deux possibilités. Soit on décide de rester assis dans son salon et de rien faire de sa vie, quoi, hein, c'est ça, ou de rester chez les parents et puis d'attendre que les choses se passent. Soit on décide de se prendre en main, de trouver des aides autour et de réaliser ses rêves ou de réaliser ses envies. Et dans ce cas-là, il faudra encore plus se battre que les valides. Mais j'allais dire, la problématique, elle est un peu la même pour tout le monde, handicapé ou pas handicapé. Aujourd'hui, le monde est difficile pour tout le monde, même pour les valides. Et donc, si on veut y arriver, mais il faut être gourmand, il faut se battre, il faut avoir la niaque. Et puis, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais je dis que on est sûr de pas y arriver si on n'essaye pas.
Est-ce que c'était un challenge pour vous, ce livre?
Non, je pense que c'était plus... C'était une idée que j'avais depuis que j'étais toute petite, alors ça va paraître idiot, mais vers 5-6 ans, en gros, dès que j'ai su écrire, j'avais l'idée, je savais qu'un jour j'écrirais ça. Parce que j'avais bien déjà compris très très vite que j'étais différente et que j'allais devoir me battre peut-être plus que les autres. Donc je voulais raconter ça, puisque j'avais un peu, étant une des rares en France à avoir l'opportunité, l'occasion de suivre ma scolarité dans des classes ordinaires, et ça je le savais, ben, je me suis dit, tiens, je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire, ben, un jour, peut-être, je le raconterai, j'écrirai. Voilà, donc c'est, j'allais dire, il a fallu le temps, que le projet mûrisse, que, ben, voilà, tout vient de ta point, qui sait t'attendre.
Qui ne tente rien à rien.
Voilà, et puis en fait, ce que souvent les gens me demandent, c'est, combien de temps ça t'a pris pour l'écrire? En fait, moi, je l'ai pas vu comme ça. D'abord, ça m'a pris, en fait, à peine quelques mois. Mais c'est surtout que je me suis dit, je ne peux pas m'imposer d'écrire. Il n'y a pas de rituel, je vais écrire à telle heure tous les jours. Enfin, voilà, après, chaque personne écrit, chaque écrivain fonctionne, ou chaque auteur fonctionne différemment. Et moi, je me suis dit, si je m'impose quelque chose, si je me fais suer, si je me fais suer à écrire, les gens se feront suer à le lire. Donc, je veux l'écrire uniquement quand j'en ai vraiment envie. Et donc, en fait, à chaque fois, c'était un plaisir de l'écrire. C'était pas un défi, c'était plus une libération qu'autre chose, quoi.
Est-ce que vous aviez envie que le lecteur se mette à voir par vos yeux en lisant ce livre?
Oh, je sais pas si c'est... Disons que j'avais envie de montrer ce qu'il ne voyait pas forcément. Alors qu'ils se mettent à ma place, pas forcément, parce que tout le monde n'en est pas capable, mais au moins que de pointer un certain nombre de choses. Par exemple, ben sans divulguer, le livre, à un moment, j'explique que lorsqu'un supermarché, mettons, réagence ses rayons, pour moi, c'est absolument infernal. C'est-à-dire que tout d'un coup, tous mes repères s'effondrent et qu'il faut que je reconstruise tout. Et ça peut prendre plusieurs heures pour trouver un paquet de levure et deux paquets de lessive. Donc, voilà. C'est plus montrer en quoi, quelque part, les gens, lorsqu'ils ne font pas attention, nous créent encore plus de problèmes. Et bon, voilà, c'est plus pointer un certain nombre de choses. Chacun voit la vie à travers ses propres yeux, à travers ce qu'il vit, donc forcément, il peut pas comprendre les différences de l'autre, enfin les difficultés de l'autre, s'il n'y fait pas attention ne serait-ce qu'une fois. Donc c'est peut-être attirer cette attention au moins une fois, quoi.
Tout au long de votre vie, vous avez pris vos décisions, vécu vos expériences, quitte à ne pas aboutir, mais toujours en discutant avec vos proches de vos projets. Est-ce que pour ce livre, vous avez aussi discuté avec vos proches pour ce projet-là?
Alors, j'allais dire, c'est presque... le début de ce livre a été l'exception. C'est-à-dire qu'en fait, pour les citer, j'ai envoyé par exemple à mes parents le manuscrit. Je l'avais écrit j'avais écrit en entier et j'en avais relu à peu près la moitié. Et c'est là que je leur ai envoyé la moitié relue. Donc sans, je leur avais rien dit du tout avant. Donc ça a été une surprise absolument colossale, mais heureuse. Et donc après, je vais pas dire qu'ils me mettaient la pression pour avoir la deuxième moitié rapidement, mais c'était un peu ça quand même, quoi. Donc après effectivement une fois que je leur avais tout donné, ils m'ont pas mal aidé dans les relectures, me donnaient des fois des avis sur des choses qui moi me paraissaient évidentes parce que je connaissais le sujet et qui des fois peut-être pour un lecteur non averti aurait pu être incompréhensible. Enfin voilà, il y a eu un travail après ensemble, y compris après avec mon mari, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu l'exception où là je ne les ai pas associés dès le départ.
Est-ce que votre handicap, vous l'avez vécu comme une force?
Des jours oui, des jours non. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, oui, c'est une force dans la mesure où ça m'a forcé à me forger le caractère, de fait. C'est-à-dire que j'étais déjà d'un caractère d'un naturel un peu têtu et volontaire, donc pour arriver à ce que je voulais, il a fallu que j'en remette, on va dire, une louche supplémentaire, quoi. Et que je me forge un caractère en fonction. Donc, par certains côtés, c'est une force. Par d'autres côtés, c'est forcément une faiblesse, ne serait-ce que le fait de ne pas pouvoir conduire, de ne pas pouvoir être libre de ses mouvements, un jour où les transports en commun font grève ou des choses comme ça, au hasard. c'est vrai que, non, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont quand même gênantes. Après, au niveau du caractère, c'est sûr, et puis de ma vie, c'est sûr que j'ai vécu des choses que d'autres personnes valides ne vivront jamais. Mais j'allais dire, j'en ai payé le prix fort, c'est-à-dire que je me les suis gagnées, on va dire, pour parler, peut-être, c'est pas du très bon français, mais bon,
oui.
Voilà quoi.
Vous avez mis du temps pour apprendre avec le braille, puisque vous avez eu votre scolarité... on va dire, entre guillemets, normal.
Oui, vous pouvez quasi même enlever les guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une scolarité normale, si ce n'est que je ne pouvais pas voir au tableau. Je voyais à peine qu'il y avait un tableau. Donc, en fait, je prenais tous mes cours en écoutant ce que disaient les institutrices et puis ensuite les professeurs au collège. et qui nécessitait qu'eux aussi fassent des efforts.
Oui.
Voilà. Et du coup, j'ai appris le braille un peu de force quand j'étais petite, mais je ne voulais pas m'en servir, donc forcément, quand on s'en sert pas, c'est un peu comme une langue, on en oublie une partie. Enfin, au moment, on n'a pas la pratique, donc on n'a pas la rapidité de lecture. Et de fait, il y a quelques années, j'ai été obligée de m'y remettre. Et là, avec la motivation et la nécessité, ben forcément, on réapprend assez rapidement. Et on se rend compte que ce qu'on apprend à 5, 6, 7 ans, bon ben voilà, c'est plus facile quand c'est déjà appris une première fois quand on est petit, quoi.
Et est-ce que votre livre est écrit également et disponible en braille ?
Oui, alors évidemment, en fait, c'est quelque chose auquel je tenais. Mon livre est disponible auprès de la Bibliothèque numérique française accessible, donc qui met à disposition des personnes qui justifient des handicaps visuels, donc une carte d'invalidité avec un taux supérieur à 80%. Ces personnes ont un abonnement à cette bibliothèque, gratuit, me semble-t-il. Et là, ils peuvent télécharger le livre, donc en format braille, donc lisible sur un ordinateur spécial, enfin un bloc-notes, ou en format audio, donc synthèse vocale. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y a la même chose pour une autre bibliothèque qui s'appelle EOL, qui est la bibliothèque d'une association bien connue des malvoyants ou des non-voyants, qui est l'association Valentin Huy. Et elle est en train d'enregistrer le livre en voix humaine, c'est-à-dire que c'est pas une synthèse vocale qui va le lire, ça va être une personne. Donc elle y sera disponible auprès de EOL en braille et audio voix humaine.
Alors si on veut en savoir plus, où se trouve le livre, acheter votre livre par le biais d'internet, etc., etc., vous avez un site, hein, Pascal.
Ouais, voilà. Alors j'ai créé un site en fait pour même compléter le livre, pour aller au-delà du livre, parce qu'en fait pour moi ce livre n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que j'aimerais bien arriver à créer une communauté de personnes qui, un peu comme moi, c'est-à-dire personnes handicapées qui ont fait des choses, on va dire, qui peuvent être, entre guillemets, exemplaires, c'est-à-dire qui peuvent donner envie à d'autres personnes de croire en leur chance, quoi. Donc, cette communauté, j'aimerais bien la monter petit à petit. Pour l'instant, j'ai créé un site web qui est www.pascal-casanova.fr. Donc sur ce site, il y a des extraits du livre, il y a des vidéos, il y a plein de choses, il y a plein de photos, il y a des compléments d'informations. Il y a un formulaire de contact pour ceux qui le veulent, vous pouvez laisser des commentaires, enfin voilà, c'est un site web. Il y a une page Facebook également, un fil Twitter aussi. Donc ça, pour en savoir plus, ben voilà, vous pouvez déjà aller là. Le livre est disponible, j'allais dire, dans toutes les librairies. Il est disponible également sur Internet, sur les sites marchands les plus connus, hein, les grands que, bon, je vais peut-être pas citer, mais voilà. Donc, si vous tapez sur Internet le titre, donc, on m'avait dit que c'était impossible, vous verrez, vous avez l'embarras du choix pour l'acheter.
Voilà. Mais en même temps, moi, j'incite vivement à ce que ce soit par...
En librairie, moi, c'est... Voilà librairie. J'allais dire, j'aime autant que ce soit en librairie, ouais, parce que j'aime les livres et que j'ai pas envie qu'elles disparaissent. Alors, juste un point quand même qui, pour moi, est important.
Oui.
Les droits d'auteur sont reversés pour moitié à une association qui est Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. C'est pour moi un moyen de les remercier quelque part, parce qu'en fait, j'ai été opérée du cœur, donc lorsque j'avais 10 ans. Et c'est grâce à la personne qui m'a opérée et qui a fondé cette association par la suite que j'ai pu avoir la carrière de sportive de niveau que j'ai pu avoir. Et donc, c'était quelque part un petit clin d'œil en remerciement. Donc voilà, donc les droits d'auteur iront à cette association pour moitié.
Et il faut pas oublier aussi que... durant toute cette vie complètement folle et qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes maintenant, vous avez été et vous êtes aussi moniteur de secourisme.
Oui, en fait, bon, c'est pas pendant toute la vie, mais je m'y suis mise. J'ai été formée équipier secouriste, puis moniteur de secourisme et puis chef d'équipe à la Croix-Rouge, on va dire entre 2003 et 2009. Donc j'ai arrêté mes activités au sein de la Croix-Rouge en 2009 parce que j'ai eu des soucis de santé à ce moment-là, donc qui m'ont forcé à mettre un terme à ça. Mais oui, j'ai été secouriste et c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Et puis bon, là, je suis trop occupée pour m'y remettre, mais c'est vrai que bon, j'ai d'autres objectifs, mais c'est vrai que c'est une période de ma vie, dont je parle dans le livre, qui elle aussi, a priori, était impossible, puisqu'un secouriste et a fortiori un chef d'équipe malvoyant, ça se fait pas. Et pourtant.
Mais vous l'avez fait.
Mais j'ai fait, donc, voilà.
Donc, comme quoi, il y a des choses qui ne se font pas et qui, ou qu'on ne pourrait peut-être pas faire.
Pas imaginer. Voilà. Mais il y en a plein dans ce livre. Hein. Ouais. Pour ceux qui veulent avoir la liste, vous n'avez plus qu'à acheter le livre.
Voilà. Non, parce que c'est vraiment, enfin, c'est génial, quoi. Allez, on va passer aux questions à la con.
Allez.
Transmettre, mais transmettre quoi?
Allez, on va dire la joie de vivre.
Comment va Ginny?
Ginny va super bien, merci. Ginny est mon chien guide, mon nouveau chien guide. Il est en train de faire la sieste, là, alors qu'il est.
D'accord. La qualité que vous aimeriez avoir, ça serait laquelle?
Moins bavarde.
Le chemin mène où?
Certainement pas un tome 2 du livre. J'en sais rien, j'attends de l'emprunter pour savoir.
La lettre que vous aimeriez écrire, elle serait pour qui?
Mon grand-père paternel, qui a pas mal compté pour moi et qui a eu la Légion d'honneur donc pour à son époque en tant que militaire. Et lorsque j'ai eu à mon tour la Légion d'honneur pour mes performances en ski, c'est vrai que j'ai regretté de pas pouvoir le lui montrer puisqu'il était décédé déjà quelques années auparavant.
La rencontre que vous aimeriez faire, ce serait laquelle?
Plein de gens aussi fous et barges que moi, c'est pour ça que j'ai envie de créer ce réseau.
Si vous étiez un jeu, ce serait lequel?
Oula. Certainement pas un jeu de patience.
Je vous sens un peu...
Ouais, je sais pas. Bon, John Gillespie, j'y vois pas assez pour y jouer, mais je pense qu'il doit y avoir un peu de ça.
Alors, la sensation la plus incroyable pour vous, c'est laquelle? Celle que vous avez vécue, la plus incroyable.
Ouais, je pense que certaines courses de descente, quand tout se passe bien, quand les sensations sont bonnes, c'est quand même assez fantastique. Parce qu'on est à 100 km/h, derrière un guide en qui on doit avoir une parfaite confiance. On voit pas le relief, on voit pas ce qu'il y a sous nos skis, et pourtant ça file. Et quand les courbes sont bien taillées, quand la technique est nickel, c'est chouette.
Allez, je vous ai posé plein de questions, vous avez le droit de m'en poser une.
Oh. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? Au moins, si vous avez vu au moins des extraits ou...
Alors, moi, j'ai apprécié la simplicité avec laquelle vous décrivez votre vie, même si elle n'a pas été si simple que ça, en fait. J'aime découvrir des personnes, avant tout. Je suis attachée au fait que il y a des femmes dans l'histoire qui ont beaucoup marqué l'histoire et, en fait, qu'on connaît pas. Et vous faites certainement partie de ces femmes-là, en fait. Et quand j'ai vu que, quand on nous a envoyé le fait que vous aviez sorti un livre, je me suis un petit peu attardée sur votre parcours et tout ça. Et je vous connaissais déjà en amont, puisque ça fait très longtemps que je suis les sports, les handisports et tout ça, parce que je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez sur les médias. Et je trouve que, vous êtes l'une des femmes qui aura marqué certainement l'histoire avec un grand F.
C'est vraiment très aimable. Enfin, en tout cas, ça me touche beaucoup.
Mais c'est sincère. Et c'est pour ça qu'il faut lire le livre, parce que à ce moment-là, on comprendra pourquoi je dis ça.
Écoutez, en tout cas, ça me touche beaucoup. Et puis juste, si je peux me permettre une petite parenthèse, vous parlez d'handisport.
Oui.
Si je peux faire un petit coup de pub, le 25 avril, c'est un samedi, il y a Handisport, en fait, place du Capitole, de 10h à 18h, avec plein de démonstrations. Moi, j'y serai. On vendra des livres à cette occasion, mais bon, pas que, moi j'y serai, puis je pourrai répondre à plein de questions s'il y a des gens qui ont envie d'en poser, donc n'hésitez pas à venir. Cette année, on a commandé le beau temps, donc il n'y a pas de souci.
Alors, c'est le 25 avril, à partir de quelle heure?
10h, 18h.
10h,
toute la journée, place du Capitole. Okay. C'est un samedi.
Très bien, c'est noté pour moi. Une personne que vous aimeriez nous faire découvrir, ce serait qui?
Alors, il y a une petite jeune là que j'ai découverte un peu par hasard, qui s'appelle Clémentine, qui est du côté de Pibrac, qui est aveugle et très 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 malentendante, et qui suit elle également une scolarité normale. Alors moi, franchement, je lui tire mon chapeau, parce que je pense que ce qu'elle fait, c'est encore pire que ce que j'ai fait à l'époque. Alors, donc c'est un petit bonjour à Clémentine, parce qu'en plus de ça, elle monte à cheval, elle joue du djembé, elle joue aux échecs, c'est une craque en maths, elle gagne régulièrement des concours académiques, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc là, elle est en train de préparer son brevet des collèges, mais bon, à mon avis, elle a aucun souci à se faire. Donc un petit bonjour à Clémentine, et c'est vrai que c'est une fille, pour moi, extraordinaire. dont j'espère qu'elle fera partie du réseau en tout cas.
Bon, eh ben, il me tarde de rencontrer cette Clémentine.
Voilà.
Et attention, la question la plus con de ce questionnaire à la con, il faut bien l'avouer. Quelle est la radio que vous allez écouter de temps en temps à partir d'aujourd'hui?
Oh ben la vôtre, bien sûr.
En tout cas, Pascal, nous, on a vraiment beaucoup apprécié en fait le livre et puis la femme qui se cache derrière aussi. Et on a envie de découvrir tout ce que vous faites et tout ce que vous allez faire en fait. Parce qu'on a l'impression que ça va pas s'arrêter là et ça se sent.
Ouais, c'est bien possible. Même s'il n'y a pas de tome 2, c'est bien possible.
Ouais, non, mais voilà, ça se sent en fait.
Ouais, mais en tout cas, ce sera avec plaisir si vous passez place du Capitole le 25 avril qu'on pourra continuer cette conversation.
Allez.
Ça marche.
Merci beaucoup Pascal et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.